La meilleure forme de gouvernement n'est pas la démocratie, mais un roi bienveillant.
D'accord.
C'est un oiseau rare, mais ce fut le cas du bon Josias qui, avec le prophète Jérémie, ont essayé de renverser la vapeur dans le royaume de Juda en déracinant l'idolâtrie et remettant en vigueur le culte à l'Éternel. Nous sommes dans la seconde série de messages que Jérémie a donné au peuple avant qu'on ne découvre un exemplaire du livre de la loi enfoui quelque part dans le temple. Les efforts conjugués du roi et du prophète entraînent des réformes religieuses significatives, mais ce ne sera qu'un feu de paille parce que le retour du peuple à Dieu est très superficiel, ce que le prophète leur a reproché, disant « Juda la perfide n'est pas revenu à moi de tout son cœur. Son retour n'était qu'un leurre. » L'Éternel le déclare. Les Israélites restaient indifférents à Dieu alors même qu'ils continuaient à les supplier, disant « Revenez donc, enfants rebelles, et je vous guérirai de vos égarements. » Je commence à lire le chapitre 4 du livre de Jérémie. « Si tu reviens, ô Israël, si tu reviens à moi, l'Éternel le déclare, si tu ôtes de devant moi tes abominations, sans plus errer de ça, de là, si tu prêtes serment, disant, l'Éternel est vivant, si tu le fais en respectant la vérité dans la droiture et la justice, alors les nations, l'une, l'autre, seront bénies par l'Éternel et tireront de lui leur gloire. » Car voici ce que l'Éternel déclare aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau, ne semez plus parmi les ronces. Purifiez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, ô hommes de Juda, habitants de Jérusalem, car sinon, ma colère jaillira comme un feu, et elle brûlera sans que nul ne l'éteigne à cause de la perfidie de vos agissements. Versets 1 à 4. Sous peine de sévères jugements, Jérémie appelle les Israélites à un changement radical, à déraciner l'idolâtrie qui est dans leur cœur et à retourner à l'Éternel. Suite aux réformes religieuses entreprises par le roi Josias, les Juifs avaient amendé leur conduite, mais c'était pour la forme, en attendant que l'orage passe, du rafistolage, un peu quand on donne un coup de peinture sur un plafond fissuré. Jusqu'à présent, la prédication de Jérémie a eu le même effet qu'une semence qui tombe sur un sol dur non travaillé. Ça ne germe pas. À moins d'en avoir expressément reçu l'ordre, comme Jérémie, il est futile d'annoncer la parole de Dieu à des moqueurs. Un jour, Jésus a dit « Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles devant les porcs. » Les gens qui ont le cœur endurci ont besoin que le Saint-Esprit fasse une œuvre en eux afin qu'ils éprouvent une conviction de péché. Alors ils se repentiront et seront réceptifs à la parole de Dieu. Je continue le texte. Adressez un appel au peuple de Juda et qu'on le fasse entendre dans tout Jérusalem. Sonnez du cor à travers le pays, criez à pleine voix et dites « Rassemblez-vous, rallions les villes fortifiées !» Dressez un étendard du côté de Sion, mettez-vous à l'abri et ne restez pas là, car je ferai venir un malheur du côté du nord et une grande catastrophe. Un lion surgit de son fourré, celui qui détruit les nations s'est mis en route, il sort de son repaire pour ravager votre pays, pour dévaster vos villes et les laisser sans habitants. Versets 5 à 7. Le cor jouait un peu le même rôle que les cloches d'église. Il était utilisé pour rassembler les soldats pour la bataille ou les fidèles pour les fêtes religieuses ou encore pour donner un signal d'alarme. Les habitants de Juda avaient assisté à la destruction du royaume des 10 tribus du Nord. Maintenant, ça va être leur tour. Jérémie annonce l'invasion babylonienne en avertissant les habitants des campagnes qu'ils devront se réfugier dans les villes fortifiées. Je continue. C'est pourquoi revêtez des habits de toile de sac, pleurez, lamentez-vous, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Et il arrivera en ces jours-là, l'Éternel le déclare, que le roi perdra tout courage et les ministres avec lui. Les prêtres seront consternés et les prophètes stupéfaits. Versets 8 et 9. Parce que les Israélites refusèrent de se repentir, Dieu les a reniés. Après que Jésus ait été officiellement rejeté par les Juifs, il a pleuré sur Jérusalem et il a dit « Maintenant, votre maison va être abandonnée et restera déserte. » Il annonçait la destruction de la nation par les Romains, ce qui arriva en l'an 70 de notre ère. Dieu est patient et miséricordieux, mais ceux qui le repoussent seront jugés. Le grand drame est que les gens rejettent Dieu sans savoir qui il est. Or, la seule façon de le connaître est d'étudier sa parole. Seulement, les Écritures sont parfois difficiles à comprendre pour l'homme moderne parce qu'elles sont une collection de 66 livres écrits par une quarantaine d'auteurs sur une période de 3000 ans. Voilà pourquoi j'essaye de les mettre à la portée de tous en les commentant tout en les replaçant dans leur contexte historique et culturel. Je continue le texte. Alors je répondis, « Ah, Seigneur éternel, tu as vraiment trompé ce peuple et tout Jérusalem quand tu leur as promis, vous vivrez dans la paix, alors que maintenant l'épée attente à notre vie. » Verset 10. Jérémie est horrifié par son message de jugement. Ce sont en fait les faux prophètes qui ont trompé le peuple en leur faisant croire qu'il y aurait la paix. Mais l'Éternel, qui est le Dieu souverain, l'a voulu ainsi parce qu'il était décidé à châtier Juda pour son idolâtrie et sa rébellion contre lui. Je continue le texte plus loin. « Nettoie ton cœur, Jérusalem, de ta méchanceté, et tu seras sauvé. Jusqu'à quand seras-tu habité de projets malveillants ?» Verset 14. Comme le jugement à venir est directement lié à la conduite du peuple, Jérémie passe souvent des menaces aux exhortations. Rien n'est encore perdu si la nation se repent sincèrement et retourne à l'Éternel. Je continue. Une proclamation se fait entendre depuis Dan, et l'on annonce le malheur sur les monts d'Éphraïm. Verset 15. Dan était la tribu installée la plus au nord du pays d'Israël. Ce territoire sera donc envahi le premier. Les monts Éphraïm sont une région montagneuse au centre de la Palestine, à une vingtaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Jérémie décrit la progression des Babyloniens qui se dirigent vers Juda. Le prophète Ésaïe avait usé du même mouvement oratoire lorsqu'il avait évoqué, étape après étape, l'arrivée des Assyriens. Je continue plus loin. « Voilà ce que te valent ta conduite et tes actes, tout cela est le fruit de ta méchanceté, oui, cela est amer, cela pénètre jusqu'en ton cœur. » Verset 18. Nouvelle exhortation au peuple à qui Jérémie rappelle les raisons d'ordre moral de ce désastre à venir. Je continue. « Je suis bouleversé, je me tords de douleur et mon cœur bat très fort. » C'est le tumulte en moi, je ne peux pas me taire, car j'ai bien entendu le son du cor, le cri de guerre. Verset 19. Jérémie décrit ce qu'il voit, va arriver et exprime sa douleur. Cette identification avec son peuple est touchante. Les prophètes étaient les premiers à souffrir de leur message de jugement. Je continue plus loin. Ah, mon peuple est stupide! Il ne me connaît pas, ce sont des enfants insensés qui ne comprennent rien, ils n'ont d'intelligence que pour faire du mal, mais ils ne savent pas faire ce qui est bien. Verset 22. Jérémie rappelle une fois encore les causes morales du jugement de la nation. Cette accusation portée contre les Israélites est applicable aujourd'hui même à l'ensemble de la population de la planète. Je continue plus loin. Car ainsi parle l'Éternel, toute la terre est dévastée, mais je ne la détruirai pas entièrement. Verset 27. La différence entre le peuple de Dieu et les autres nations est que l'Éternel se réserve toujours en Israël un reste auquel se rattacheront toutes les promesses faites aux ancêtres. C'est de cette manière que Dieu fait concorder sa justice avec sa fidélité. Je finis le chapitre 4 en compressant. « Que fais-tu, ville dévastée? Tu te vêts d'écarlate, tu mets des bijoux d'or, tu fardes tes paupières avec de l'antimoine. C'est en vain que tu te fais belle. Tes amants te méprisent, ils veulent te tuer. J'entends comme la plainte d'une femme en travail, ce sont les cris que pousse la fille de Sion. Elle suffoque et elle tend les mains. Malheur à moi, je suis à bout de souffle face au tueur. Versets 30 et 31. L'antimoine était une poudre noire qui servait à se farder les yeux. Les amants sont les nations avec lesquelles Jérusalem cherche à s'allier. Ces magouilles politiques sont comparées aux artifices d'une courtisane, mais elles échoueront parce que l'ennemi est décidé à détruire Juda. Je commence à lire le chapitre 5. Allez de ça, de là, dans les rues de Jérusalem, observez donc et constatez, et cherchez sur ces places si vous trouvez un homme, s'il y en a un seul qui pratique le droit et qui s'efforce d'être fidèle, dans ce cas, je pardonnerai à cette ville. Verset 1. Selon la petite histoire, Diogène, le fondateur du cynisme, se baladait dans la ville d'Athènes en plein jour, muni d'une lanterne, à la recherche, disait-il, d'un homme honnête. Et il n'en aurait, paraît-il, jamais trouvé un seul. Alors que l'Éternel demandait 10 justes pour pardonner à Sodome, il n'en demande qu'un à Jérusalem, mais il n'y avait pas un seul homme qui puisse légitimement, grâce à son attitude de justice et de vérité, plaider la cause de Juda et obtenir son pardon. Jérémie ne compte pas parce qu'il n'était pas originaire de Jérusalem. Je continue le texte. « Car quand ils jurent, l'Éternel est vivant, leurs serments sont trompeurs. Ô Éternel, tes yeux ne peuvent s'attacher qu'à la fidélité. Tu as frappé ces hommes, mais ils n'ont pas été touchés. Tu les as écrasés, mais ils ont refusé d'accepter la leçon. Ils ont rendu leur face plus dure que le roc, et ils ont refusé de changer de comportement. » Versets 2 et 3. Jérémie indique plusieurs fois l'endurcissement du peuple et son refus d'écouter la parole de Dieu et de changer d'attitude. La ténacité de Jérémie au service de Dieu, le peuple la montre dans sa rébellion contre lui. Je continue plus loin en compressant. « Tous ensemble, petits et grands, ils ont brisé le joug. Ils ont rompu les liens. C'est pourquoi surgira le lion de la forêt pour les frapper et le loup de la steppe viendra les décimer. La panthère est tapie près de leur ville et tous ceux qui en sortiront se feront déchirer parce que leurs révoltes se sont multipliées et leur trahison ne cesse de s'accroître. » Versets 5 et 6. Ces trois animaux qui sont mentionnés ici sont habitués à déchirer et dévorer leurs victimes. Ces animaux représentent l'envahisseur babylonien et le châtiment brutal que va subir Juda. Je continue. Avec cela, pourrais-je encore te pardonner? Tes enfants m'ont abandonné et ils prêtent serment par ce qui n'est pas Dieu. Moi, je les ai comblés et ils sont adultères. Ils vont en foule aux maisons des prostituées. Ce sont des étalons bien repus et pleins de désirs, et chacun d'eux hennit après la femme du prochain. Versets 7 à 9. Les sanctuaires des idoles étaient fréquemment des lieux de débauche. Les hommes ne s'y rendaient plus à la dérobée, mais ouvertement pour recourir au service des prostituées sacrées, ou alors ils séduisaient l'épouse de leur voisin. Cette immoralité sans scrupules montre que la nation était mûre pour le jugement. Je continue plus loin. Escaladez ces murs et détruisez ma vigne, mais ne l'achevez pas. Arrachez ces sarments, ils n'appartiennent pas à l'Éternel. Verset 10. La vigne de l'Éternel est livrée aux Babyloniens afin d'émonder les sarments qui ne lui appartiennent pas. Cependant, la souche ne sera pas extirpée. Je continue plus loin. Quant aux prophètes, ils ne sont que du vent, ils n'ont aucun message. Les malheurs qu'ils annoncent, qu'ils leur soient infligés. Verset 13. Il s'agit de prophètes authentiques envoyés par l'Éternel, mais qui sont rejetés en bloc par le peuple. Je continue plus loin en compressant. « Je vais amener contre vous une nation de loin. Au peuple d'Israël, l'Éternel le déclare. C'est une nation très ancienne. » Une nation impérissable dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprends pas les propos. Mon peuple ne dit pas dans son cœur « Révérons l'Éternel, lui qui est notre Dieu ». Il nous donne les pluies, chacune en sa saison, les pluies d'automne et celles du printemps. C'est lui qui nous réserve les semaines fixées pour faire la moisson. Mais ce sont vos péchés qui ont tout dérangé, ce sont vos fautes qui vous ont privé de ces biens. Versets 15, 24 et 25. C'est Dieu qui donne la pluie par le moyen des forces naturelles. Les semaines pour faire la moisson vont de Pâques à la Pentecôte, la dernière étant appelée la fête des semaines. À l'époque de ces messages, le pays traversait une période d'intense sécheresse qui était un premier jugement, mais le pire était à venir. Dieu allait châtier Juda avec les Babyloniens dont la civilisation remontait déjà à plus de 2000 ans en arrière. Je finis le chapitre 5. Des choses stupéfiantes, des abominations ont lieu dans le pays. Dans leurs prophéties, les prophètes ne disent que mensonges et les prêtres dominent au nom de leur autorité. Mon peuple, lui, trouve cela très bien. Mais que ferez-vous donc après ce qui va arriver? Versets 30 et 31. Tout Juda est coupable, des plus petits aux plus grands. Les prophètes trompeurs, les prêtres qui avaient soif de pouvoir et le peuple dans sa totalité qui était friand de toute cette mascarade. Je commence maintenant à lire le chapitre 6. « Fuyez, Benjaminites, quittez Jérusalem, sonnez du cor à Tekoa, élevez un signal au-dessus de Beth-Hakerem, car du nord arrive un malheur et une grande catastrophe. » Verset 1. Jérémie, lui-même de la tribu de Benjamin, s'adresse à ses compatriotes parce que, attaqué par le nord, il chercherait tout naturellement refuge à Jérusalem, qui était située sur leur territoire. Mais le prophète leur dit que c'est plus au sud qu'il leur faudra fuir, car Jérusalem sera conquise. Je continue. La belle et la voluptueuse, la fille de Sion, je la réduis au silence. Des bergers monteront vers elle, suivis de leurs troupeaux. Ils planteront tout autour d'elle leur campement de tentes, et chacun fera paître ses bêtes sur son lot. Versets 2 et 3. La destruction de Jérusalem servira à punir les raffinements de son luxe. À toutes les délicatesses d'une génération corrompue succéderont les brutalités du conquérant babylonien qui est comparé à des troupeaux qui dévorent tout et dont les bergers sont les chefs de guerre. Je continue plus loin. Préparez-vous pour le combat contre elle. Debout, donnons l'assaut à l'heure de midi. Hélas, malheur à nous, car déjà le jour baisse et les ombres du soir s'allongent. Debout, attaquons-la de nuit, détruisons ses palais. Voici ce que déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Abattez donc ces arbres et dressez des terrassements contre Jérusalem, cité qui doit être punie, cité où règne la violence. Versets 4 à 6. Les ennemis babyloniens sont arrivés devant la ville à midi, et dans leur ardeur combative, ils ont donné l'assaut malgré la chaleur du jour. Mais ils furent repoussés. Alors, ils donnent un second assaut, nocturne celui-là, mais ils rencontrent une résistance opiniâtre qui les oblige à commencer un siège en règle. Ils coupent donc des arbres pour fabriquer des rampes d'accès aux remparts de la ville. Je continue plus loin. Car tous, petits ou grands, sont avides de gains. Tous, du prophète au prêtre, pratiquent la duplicité. Ils guérissent superficiellement mon peuple du désastre en disant « Tout va bien, tout va vraiment très bien, alors que rien ne va. » Versets 13 et 14. Les responsables du peuple trompaient les Israélites en proclamant la paix, ne lui procurant qu'une piètre et éphémère fausse sécurité. Par contre, les prophètes de l'Éternel, qui disaient la vérité, étaient taxés d'ennemis de la patrie. Je continue plus loin. Voici ce que dit l'Éternel. Tenez-vous sur les routes, regardez, informez-vous des sentiers d'autrefois. Quel est le bon chemin? Et puis, suivez-le donc et vous y trouverez du repos pour vous-même. Mais ils ont répondu, nous n'y marcherons pas. Alors j'ai établi des sentinelles parmi vous qui vous ont dit « Prêtez donc attention au son du cor !» Mais ils ont répondu « Nous n'écouterons pas !» Versets 16 et 17. Le peuple de Juda s'était volontairement endurci. Il avait rejeté les préceptes de la loi et les avertissements des sentinelles, c'est-à-dire des prophètes de l'Éternel. Je continue plus loin. Qu'ai-je à faire de l'encens importé de Saba et du roseau aromatique venant d'un pays éloigné? Je n'aime pas vos holocaustes et je n'apprécie pas vos sacrifices. Ô communauté de mon peuple, revêt ton habit de toile de sac, roule-toi dans la cendre et prends le deuil comme pour un enfant unique. Répands-toi en lamentations amères, car le dévastateur fondra soudain sur nous. Versets 20 et 26. Ce n'est pas la religion et les cérémonies cultuelles qui vont apaiser la colère de Dieu contre son peuple qui lui est rebelle. Ce qu'il désire est la repentance et une contrition sincère. Je continue plus loin et finis le chapitre 6. Voici, je t'ai placé comme celui qui teste les métaux au milieu de mon peuple pour que tu examines, que tu éprouves leur conduite. Ce sont tous des rebelles qui refusent d'entendre, qui vont semant la calomnie. Ils sont endurcis comme bronze et fer, et ce sont tous des destructeurs. Le soufflet souffle, et le plomb est dévoré par le feu. C'est en vain qu'on insiste pour faire fondre les scories. Les mauvais éléments ne se détachent pas. Ils seront appelés de l'argent de rebut, parce que l'Éternel les a mis au rebut. Versets 27 à 30. Le plomb était autrefois utilisé pour l'épuration de l'argent. Le prophète est comparé à celui qui teste les métaux afin d'évaluer la valeur du minerai qu'il a devant lui, c'est-à-dire les habitants de Juda. Comme ils sont amalgamés au mal et qu'on ne peut l'extirper d'eux, ils sont tout juste bons à être mis au rebut comme de vulgaires scories. Ça paraît sévère. Mais il faut garder à l'esprit que l'Éternel est Dieu et toute désobéissance envers lui est un crime de lèse-majesté.